C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles.
Moi, mes projets, c'est en fait d'attendre qu'on me donne l'autorisation de remonter sur scène.
Bonjour, c'est Maïté sur Fréquence Grand Lac.
Bah Johnny, là aussi, on s'était rencontrés bien avant La Rochelle.
Oui, je me sens cuisinière encore, landaise toujours. Ça, je pense que ça sortira jamais de mes tripes.
J'ai pleinement confiance aussi dans l'avenir de notre ville. Bordeaux la belle, je te souhaite bon vent.
Vive la radio!
Radio, raconte-moi ton histoire. Une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Aujourd'hui, la voix est libérée. Mais la radio est-elle toujours libre?
Dans la France de la fin des années 80, le paysage radiophonique paraît s'être figé. Sur le territoire national, un sévère monopole d'État réprime toute expression radiophonique autre que celle des radios publiques, France Inter, France Musique, France Culture.
De grandes radios privées, on les appelle alors les radios périphériques, diffusent leurs programmes à partir de sites d'émissions situés en dehors du sol français. RTL depuis le Luxembourg, RMC depuis la Principauté de Monaco, Sud Radio depuis la Principauté d'Andorre.
Pourtant, dans l'ombre, les radios pirates préparent le mouvement de libération des ondes. Dans l'ombre et dans l'allégresse.
La voix est enfin libre.
Nous sommes le 9 novembre 1981. Ce jour-là, le président nouvellement élu, François Mitterrand, fait voter une loi qui crée dans le monde de la radio un immense appel d'air et une grande espérance.
Par dérogation au monopole d'État, les associations déclarées selon la loi de 1901 sont autorisées à émettre des programmes radiophoniques en modulation de fréquence.
Enfin légalisées, les radios pirates qui avaient fleuri un peu partout en France peuvent sortir de la clandestinité pour devenir des radios libres.
On écoute, on sait que c'est bien cela la vérité d'une démocratie et que toutes les erreurs au passage s'effacent devant ce suprême bien qui lui, comme un grand juge, tranche finalement tout. Ce qui s'appelle la liberté. Donc je pense que sans la radio, comme dit votre slogan, hein, je crois, la vie serait muette. Une constatation d'évidence. Mais les évidences doivent être souvent rappelées. Je me demande même si je ne passe pas l'essentiel de mon temps à cela. Sans la radio, la démocratie aussi serait muette. C'est pourquoi, résumons, j'ai voulu que la France, qu'en France, cette radio fût libre.
Vous aurez reconnu François Mitterrand, président de la République. À titre personnel, il aime bien la radio, mais il a aussi ses habitudes. Au même moment, loin de Paris, une radio locale voit le jour dans les Landes, sous l'impulsion d'un ancien grand joueur du 15 de France, Pierre Albaladejo. Radio Dax-Océan, c'est son nom, ne sait pas encore que son destin va basculer le jour où...
Invité dans les studios d'Europe 1, le président Mitterrand fait savoir qu'il aimerait bien pouvoir écouter les journaux d'information d'Europe 1 lorsqu'il se trouve dans sa résidence secondaire de Latje, dans les Landes. La suite... C'est Jean-Claude Delineau, alors directeur de Radio Dax-Océan, qui la raconte.
Le président Mitterrand était habitué à l'exercice de l'information à partir de la rédaction d'Europe 1. Et donc, il était habitué à cette information qu'il ne recevait plus et donc qu'il ne pouvait plus suivre lorsqu'il se trouvait en villégiature à Latché, dans les Landes. Pierre Albaladejo, consultant, s'il en est, de Europe 1, avait créé sa radio. Notre gros problème à l'époque, pour être crédible, c'est que nous manquions d'informations costauds, construites, enfin bref quoi, d'une rédaction que seul Europe 1 pouvait nous offrir. Et au cours d'une matinée dont le président était l'invité, avec El Kabach, Philippe Gildas et Étienne Moujotte, le président Mitterrand fait part à ses hôtes de son manque de pouvoir suivre l'information d'Europe 1 lorsqu'il est à Lecce. Et là, connaissant évidemment Piero Balla mieux que quiconque, ce triumvirat s'est dit, c'est ça qu'il faut faire, il faut appeler Balla et lui proposer de lui envoyer nos informations pour que le président puisse suivre ces informations lorsqu'il est à Lecce. Et c'est comme ça que, en quelques jours, on a pu obtenir une information qui, au début, était envoyée par liaison spécialisée France Télécom. Donc, pour la parole, ça allait, mais c'était pas le must. Mais lorsque Lagardère, le père, Jean-Luc, avait loué un faisceau satellite, dans la semaine, nous avions une équipe qui descendait à Dax pour installer une parabole de 2 mètres de diamètre, enfin qui a fait tourner la tête de pas mal de gens.
N'en parlons plus. Alors j'ai rencontré Cabrel, assis au bord de l'autoroute. Je lui dis ma chanson s'appelle Sur le chemin de la route. Et c'est l'histoire d'une nonne, amoureuse d'un caillou. Dans sa vie, y'a plus personne que les marchands et les fous. Elle veut retrouver sa terre et ses chèvres et ses brebis. Fuir le doute et la poussière et revoir sa Normandie. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas, pas de lézard, je la remets dans ma culotte ou au pire dans ma guitare.
S'il te plaît, CTA, dessine-moi une radio.
En libérant la voix, le mouvement des radios libres libère partout des voix.
Car si la voix, pour s'exprimer, est bien libérée, la voix, pour diffuser, c'est-à-dire la bande FM, va vite s'encombrer.
Ainsi, en Aquitaine, 157 projets radiophoniques voient le jour entre 83 et 86. Ce sont toutes, sans exception, des radios associatives, c'est-à-dire sans financement publicitaire, au moins jusqu'en 1984.
Leur périmètre de diffusion est certes limité à 30 km, mais les opérateurs ne respectent pas toujours les limitations des puissances d'émission. Le résultat ne se fait pas attendre. L'explosion anarchique des radios et la multiplication des émetteurs suscitent très vite du brouillage.
La radio de votre région.
Vous êtes au quartier Orange, 98.3.
Sur 90.7. La voix du Béarn, bien sûr, sur 95.10.
Les radios libres vont alors découvrir qu'il y a peut-être un prix à payer pour la liberté, et ce prix, c'est la régulation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel voit le jour le 17 janvier 1989, ainsi que ses instances territoriales, les comités techniques radiophoniques.
Leur première mission est de mettre un peu d'ordre dans le développement anarchique de la bande FM. Le problème, dès qu'on ouvre la voie de diffusion, c'est de devoir accueillir toutes les voix qui veulent s'y faire entendre. Et la bande FM n'est pas extensible. Au fond, l'histoire de la régulation et des radios ne serait-elle pas l'histoire de la gestion de la rareté ?
Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Parce que depuis l'émergence de la régulation audiovisuelle, au début des années 80, au moment où le monopole de l'État sur la télévision d'une part, la radiodiffusion d'autre part a pris fin, la rareté a été une des préoccupations premières du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que quand on lit la loi du 30 septembre 1986 que nous mettons en œuvre aujourd'hui encore, on voit bien que les contraintes techniques liées à la gestion de la ressource hertzienne constituent l'une des limites au principe cardinal qui est posé par cette loi de 86, à savoir la liberté de communication. Et en radio, le principal outil permettant de concilier le développement des médias audiovisuels avec cette rareté est posé par la loi avec le principe de l'appel à candidature pour l'attribution des fréquences. Et donc, au plan technique, le régulateur, il a cherché en permanence à repousser les limites de la contrainte de la rareté de la ressource. C'est un travail qui nous a amené d'emblée à chercher de nouvelles fréquences en poursuivant un objectif que je qualifierais d'aménagement du territoire. C'est au total plus de 9000 fréquences qui sont aujourd'hui utilisées en métropole et outre-mer, à la fois par des radios publiques et des radios privées. Mais ce travail d'optimisation a atteint désormais ses limites sur la bande FM. La capacité à dégager de nouvelles fréquences est aujourd'hui très faible, même si on entreprend parfois ici ou là des recherches de fréquences. Les capacités sont aujourd'hui très faibles, alors que les besoins des radios ne sont pas entièrement satisfaits. Et c'est là où effectivement le déploiement de la radio numérique, ce qu'on appelle communément le DAB+, donc la norme technique correspondante, le déploiement du DAB+ offre un nouvel horizon, offre de nouvelles perspectives, offre une forme de respiration, mais tout comme la bande FM, il ne va pas lever complètement les contraintes. On voit bien là aussi sur nos appels à candidature, il y a toujours plus d'appelés que d'élus.
Sur une bande FM désormais régulée et pacifiée, les radios libres font enfin entendre leur voix. Des radios libres, soit, mais qu'est-ce à dire libre ?
Les radios locales associatives se déclarent libres pour proclamer qu'elles sont indépendantes des grands réseaux commerciaux qui se sont développés dans la décennie 90, tels le groupe Énergie. Elles se dotent d'instances représentatives, Confédération nationale des radios associatives, Syndicat national des radios libres, afin de défendre leurs intérêts collectifs.
Pourtant, à y regarder de plus près, la radio libre est une radio bien encadrée. Elle est certes autorisée à émettre sur la bande FM, mais en échange, bien des règles lui sont imposées. Elle doit respecter sa zone de diffusion et sa puissance d'émission. Elle doit signer une convention qui la soumet à des obligations. Elle doit diffuser un programme d'intérêt local et respecter les quotas de chansons françaises, etc.
Comment ces radios revendiquées libres considèrent-elles aujourd'hui l'intervention du régulateur ? Et d'abord, qu'en pensent nos radios pionnières ? La Clé des Ondes commence à émettre en juillet 81 pour faire entendre plus qu'une voix libre, une voix libertaire. Et pourtant, les lois et contraintes qui encadrent sa liberté sont plutôt bien intégrées. Xavier Ridon, directeur d'antenne.
Donc un certain nombre effectivement de membres de la radio et du conseil d'administration se revendiquent du mouvement anarchiste ou du mouvement libertaire. Et pour autant, on est aussi conscient de là où nous vivons. C'est-à-dire on vit dans un espace qui est loin d'être cet idéal anarchiste du stade ultime de l'ordre. Et donc les lois ont une nécessité. Et il est important que les lois puissent marquer un certain nombre de points et la régulation du coup également. Et en ce sens, prenons un exemple assez simple à comprendre, c'est celui des quotas par exemple de chansons francophones. La Clé des Ondes n'a aucun problème à faire respecter ce quota, trouve que c'est plutôt une bonne chose, et limite peut-être pour assurer encore plus de diversité, il en faudrait peut-être d'autres, puisqu'il est évident que s'il n'y avait pas de quotas sur les chansons francophones, nous serions, et c'est déjà majoritairement le cas, écrasés par la musique anglo-saxonne.
Pour la Voix du Béarn, autorisée le 13 juillet 1981, il faut des règles, comme celles posées par les conventions signées avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour que la liberté radiophonique s'exprime. Jean-Michel Poulot, président de la Voix du Béarn.
Nous avons évidemment des contraintes parce que nous avons ce cahier des charges présenté au CSA, accepté par le CSA, qui encadre étroitement notre activité. Mais cette contrainte nous donne finalement la liberté et c'est la contrainte qui est sans doute l'essence de notre liberté et en cela, les radios sont toujours libres parce qu'elles ont ce cahier des charges.
Enfin, Geneviève Tessier a fondé la radio RIG parmi les toutes premières radios autorisées en 81 et reste l'infatigable animatrice de la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine. Lorsqu'on lui demande si elle pense que la régulation constitue un frein à la liberté radiophonique, elle répond sans équivoque.
Personnellement, non. L'entrave à la liberté, c'est le problème financier. Il a été créé le Fonds de soutien à l'expression radiophonique et au départ, il avait été créé de manière, l'État qui l'a créé pensait que les radios trouveraient des moyens pour vivre, je dirais, localement. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et c'est cette recherche de finances, parce que nous avons à un moment donné décidé d'avoir des salariés, et donc de ce fait, il faut de l'argent. n'y a pas d'histoire. Et le fonds de soutien, ben, disons que même s'il existe toujours, n'a pas augmenté depuis longtemps, et c'est quand même très réducteur. Quand on touche, même si, moi je crois que c'est 38, mais même si on touche 40 000, avec 40 000, on voit bien qu'on ne peut pas avoir beaucoup de salariés, et surtout les pauvres, ils ne sont pas très bien payés. Chez nous, il faut quand même, il faut aussi qu'ils aient un petit peu de passion pour continuer à rester.
Ainsi, les obligations imposées par le régulateur ne sont pas celles qui pèsent le plus sur l'activité des radios associatives locales. Leur liberté paraît dépendre d'autres contraintes, notamment financières.
Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ?
Moi, j'écoute la radio. Et vous ?
On dit que les radios sont libres. Mais sont-elles vraiment libres ?
En France, les radios libres, nos radios associatives locales, doivent leur existence et quelque part leur résistance à deux principes posés par la loi du 30 septembre 1986 relative, ne l'oublions pas, à la liberté de communication. D'abord, elles constituent une catégorie à part entière de radios, les radios de catégorie A, et à ce titre, un espace leur a été réservé sur la bande FM au nom de la diversité des modes d'expression.
Ensuite, elles bénéficient d'un financement public, assuré par un organisme qui leur est dédié, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Michèle Lestel, vice-présidente du Syndicat national des radios libres, est l'une des cofondatrices de Radio Nos Cultures, récemment autorisé à Bordeaux.
Et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous a permis déjà de perdurer, puisqu'actuellement on est plus de 700 radios en France, 700 radios associatives de catégorie A. C'est grâce justement au fonds de soutien qui a été créé en 1983 et ensuite modifié en 1986, qui perdure bon an, mal an, qui est insuffisant, hein, parce qu'on se rend compte là que les subventions ont baissé. Mais c'est quand même grâce à cette manne financière de l'État, hein, puisque maintenant c'est devenu une aide de l'État depuis 2009, que les radios puissent continuer. Et c'est aussi parce qu'elles ont une certaine reconnaissance d'utilité publique au niveau de leur territoire et qu'elles sont aidées également par les collectivités locales. Elles sont aidées parce qu'elles font des actions sur le territoire.
Pourtant, nos radios libres ne se sentent pas si libres que cela. Elles ont le sentiment que l'insuffisance de leurs ressources financières pèse négativement sur leur liberté de dire, de faire, d'entreprendre. Pour le dire autrement, nos radios libres ne seraient pas totalement indépendantes et donc pas aussi libres qu'elles le souhaiteraient.
Ce n'est pourtant pas faute, pour certaines d'entre elles, d'avoir inscrit la liberté jusque dans leur nom. Libre comme Radio Libre en Périgord, Jean-François Dupont, membre du conseil d'administration, évoque les critères posés par le fonds de soutien.
Ah ben, ces principes, ils sont édictés déjà a priori par notre principal bailleur qui est le fonds de soutien à l'expression radiophonique et qui nous dit mettez l'accent sur la lutte contre les discriminations, sur l'éducation populaire, sur les questions d'environnement et sur le développement local. Donc ça fixe déjà le cadre général de notre expression.
Libre comme Liberté FM, son président Cyril Magne reconnaît une certaine forme d'autocensure à l'antenne pour ne pas froisser les collectivités pourvoyeuses de fonds.
Les contraintes. Elles sont un peu morales. C'est-à-dire que on est hébergé dans un local qui nous est mis à disposition par la mairie de Ribérac. La municipalité a changé lors des dernières élections et ils ont continué à nous faire confiance en nous laissant ce local. Il va de soi que si on doit traiter un sujet délicat concernant la municipalité de Ribérac, par exemple, et comme celle-ci ou la précédente d'ailleurs, hein, On va pas se refuser d'en parler, mais on va pas épiloguer non plus dessus. Parce qu'il y a la peur que derrière, on nous dise, taisez-vous, ou soit vous prenez la porte. Voilà. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent, et c'est pas dans leur intérêt, c'est pas dans leur idée non plus. Mais, moralement, on est sur une situation où, voilà, on se refuse pas d'en parler, mais on va pas en faire une polémique non plus. De la même manière, avec le département, nous, on a un sujet qui est sensible en Dordogne, c'est la déviation de Bénac, qui est quand même le cheval de troupe de bataille du président du département, et qui aussi, elle a jugé qu'elle ne se ferait pas. Donc ça reste un sujet délicat. Et effectivement, dans nos éditions d'information, on va simplement relater que, par exemple, le tribunal a refusé l'appel du département, ou on va relater que le département a fait appel, mais on va pas rentrer dans la polémique. Parce que voilà, le département est un gros financeur, et que si un jour il décide d'arrêter sa subvention, nous sommes en danger.
Alors, peut-on être libre si l'on n'est pas indépendant ? Il est vrai que dans le monde radiophonique tel que nous le connaissons aujourd'hui, des radios se sont construites en réaction contre ce qui leur paraissait contraire à leur liberté. Les unes se sont appelées radios libres, les autres radios indépendante. Cela fait-il une vraie différence ?
Non, pour Jean-Éric Valli, pionnier de la Radio Libre, fondateur du groupe 1981 et président du groupement d'intérêt économique, les Indés Radio.
Quand on a créé le GIE, on avait fait une affiche qui disait les indépendants, la radio libre et indépendante. Et on avait mis deux mots. Finalement, on séparait un peu les deux idées. Je crois que toutes les radios sont libres. Voilà. Quelles que soient les radios, nationales, locales, associatives, services publics, elles sont libres parce qu'il y a quand même une certaine liberté sur les antennes, parce que l'autorité de tutelle que vous représentez ne rentre pas dans des détails de notre fonctionnement, il n'y a pas de mauvaises suggestions, parfois on se comprend pas, parfois on n'est pas d'accord, et c'est normal. Mais voyez, je crois qu'il y a quelque chose qui nous transcende tous, qu'on ressent, peut-être sans le formuler. Là, vous me donnez l'occasion de le formuler. Je pense qu'on est bien tous ensemble. Alors, parfois vous allez être dans votre rôle de régulateur. On a des compétiteurs qui vont dans le rôle du requin qui veut s'emparer. Mais quelque part, à la fin de la partie, on sent que ce métier qui est un peu étrange, il est important, il relie les gens sans décorum, sans fioriture, et c'était la question tout à l'heure sur la confiance, la sincérité. Donc voilà, je pense que ça a beaucoup de sens de faire ce métier, et on doit le ressentir plus ou moins consciemment au fond de notre cœur. Et on a tous tendance à le protéger.
40 ans après, que reste-t-il des radios libres ? C'est quoi aujourd'hui être libre pour une radio locale qui revendique sa liberté ?
Dans la France de 2021, l'offre de radio reste marquée par sa très grande diversité. Roch-Olivier Mestre, président du CSA.
On voit qu'on a un paysage extraordinairement foisonnant, plus de 1000 radios sur notre territoire, c'est considérable. On a dans ce paysage près de 700 radios associatives, dont on sait le rôle qu'elles jouent dans la proximité. On l'a vu encore dans cette période de pandémie. 240 radios indépendantes, 25 réseaux thématiques à vocation nationale, 4 grandes radios généralistes, sans naturellement parler des radios de service public.
Beaucoup de radios associatives ont disparu au cours des 40 dernières années. Pourtant, le modèle radiophonique porté par le monde associatif a plutôt bien résisté, car dans le même temps, de nouvelles radios associatives se sont créées.
Dans le ressort du CTA de Bordeaux, sur 121 éditeurs, 61, soit plus de la moitié, sont des radios associatives et elles exploitent près d'un tiers des fréquences. À la différence de leurs homologues étrangères, ces radios ont eu tendance à se professionnaliser.
Si elles fonctionnent avec le concours de très nombreux bénévoles qui y tiennent des chroniques régulières, elles ont recruté et recrutent encore des salariés qui assurent l'animation à l'antenne, ainsi que l'information locale. Jean-Marc Courrèges-Sénac, co-président de la Confédération nationale des radios associatives et responsable d'Atomic FM, se dit confiant dans le modèle associatif.
Pour moi, le modèle associatif, mais au contraire, il a, et notamment le modèle associatif local, il doit se développer plus que jamais. C'est le moment d'ailleurs pour que ce modèle se développe. Les auditeurs ont besoin de plus en plus d'informations locales. Certes, ils peuvent la retrouver sur d'autres plateformes, sur d'autres médias, avec d'autres moyens de communication. Mais c'est vrai que la radio associative apporte quand même quelque chose en plus, justement de faire parler, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui n'ont bien trop souvent pas la parole sur des médias.
Alors c'est quoi aujourd'hui la liberté pour nos radios locales ? Et à quelles conditions peut-on maintenir un maillage de radios associatives qui continue à faire vivre des territoires, mais aussi qui concourt vraiment à l'expression des courants de pensée, des communautés, des langues régionales, en un mot, de la démocratie locale ?
Pour Radio Libre en Périgord, la liberté, c'est pouvoir se passer de publicité. Aïda Dejex, responsable d'antenne.
Nous ne diffusons pas du tout la publicité. Actuellement, depuis la création des RLP, c'est notre choix.
Mais c'est au prix d'une immense dépense d'énergie pour proposer aux collectivités publiques des messages d'intérêt général. Jean-François Dupont, puis Aïda Dejex.
On est très largement dépendant de la subvention du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et puis, on essaie, dans toute la mesure du possible, d'augmenter nos ressources en signant des conventions avec les collectivités locales pour relayer des informations qu'elles veulent diffuser. Et puis, en répondant également aux appels d'offres aux différents niveaux, soit qu'ils émanent des organismes d'État, comme par exemple la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et la haine anti-LGBT, ou bien qu'elles émanent directement de la région, comme c'est le cas pour un projet récent auquel nous avons répondu et qui a été accepté par la région.
C'est un projet sur 2 ans qui représente environ 23 000 euros sur notre budget annuel qui représente environ 100 000 euros.
Les radios basques offrent un autre bel exemple de radio avec une identité territoriale et culturelle forte et, accessoirement, des moyens financiers. Christophe Betbédé, directeur au sein de l'association Euskal Irratia, chargé de la coordination des radios d'expression basque.
Le modèle économique a 3 piliers, dans notre cas, dans le cas des radios qui émettent en langue basque. Les subventions, de droit commun radio, c'est-à-dire le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ministère de la Culture. Ensuite, comme nous sommes reconnus comme des outils de promotion et de mise en œuvre d'une politique publique en faveur politique linguistique publique en faveur de la langue basque, nous disposons de financements spécialement fléchés en fait pour l'action qu'on mène dans ce domaine-là. Donc là, c'est via les collectivités locales et principalement l'Office public de la langue basque, qui est un GIP qui nous finance. Et ensuite, le reste des financements, ce sont des financements de l'autofinancement et très principalement qui viennent de nos campagnes de soutien, en fait des auditeurs. En gros, trois piliers, c'est-à-dire 30% à peu près du FSER, 30% des politiques linguistiques, collectivités locales, et 30% des auditeurs. Et les 10% restants, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de publicité, mais surtout communication institutionnelle, hein, plus que de la publicité privée, et des prestations ou des projets que l'on peut mener ponctuellement, voilà, où on va chercher d'autres types de financements, qu'ils soient européens ou privés, mécénats, sponsors, etc.
La Clé des Ondes fait partie des radios historiques dont la longévité n'est pas le fait du hasard. Xavier Ridon, directeur d'antenne.
Cette longévité, pour ce qui est de la Clé des Ondes, a été vraiment sur deux aspects, je pense. Il y avait une volonté d'avoir un conseil d'administration qui était très fort, avec beaucoup de pouvoir sur la ligne éditoriale. Et ce conseil d'administration, il a pu travailler au fur et à mesure des années à ce que le projet associatif, le projet radiophonique puisse être tenu et qu'il puisse vraiment fonctionner d'une manière ouverte, mais aussi avec une ligne éditoriale forte, marquée, qui doit rester la même. Être, autrement dit, la radio des luttes, la radio des sans-voix, la radio de tout ce qui bouge. D'ailleurs, l'affiche qui est derrière moi reste à peu près inchangée année après année. Et c'est pas un hasard, c'est parce que la ligne reste la même et la volonté reste la même. Être d'ici et d'ailleurs de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de tout ce qui bouge. Mais il y avait ce choix, en tout cas, d'une certaine sobriété dans le développement de la radio d'un point de vue économique. Ce qui ne veut pas dire qu'on était sobre dans les actions qu'on faisait, puisque l'idée était de rayonner en dehors de la radio aussi, en participant soit à des manifestations, soit en organisant pas mal de débats à l'extérieur, de rencontres dans les cinémas, et je pense en particulier au cinéma Utopia, ou la participation de la radio à des festivals comme les Nuits Atypiques ou l'Uzeste Musical. Mais ça était assuré aussi beaucoup par les bénévoles qui sont intégrés vraiment au fonctionnement de la radio, et ça a été de tout temps.
RCF Bordeaux, qui est né en juin 81 sous le nom de Radio Harmonie, a rejoint en 1996 le réseau RCF, qui compte aujourd'hui 64 radios. Bernard Deschalins, président de RCF Bordeaux, nous dit ce qui fait la dynamique de ce réseau et sa liberté.
Je pense que cette radio et que ces radios associatives sont franchement libres. Et puis cette liberté, je pense que c'est aussi, elle est rendue par notre auditoire. Il est évident qu'en l'espace de 40 ans, c'est absolument fabuleux le développement de cet auditoire. Aujourd'hui en France, c'est-à-dire avec ces 64 radios, nous avons à peu près 3,5 millions d'auditeurs, enfin d'audience globale. Nous en avons 600 000 qui écoutent tous les jours, tous les jours, tous les jours. En ce qui concerne Bordeaux, ça correspond à peu près à 120 000 en audience globale et aux alentours de 19-20 000 qui écoutent absolument tous les jours. Ce qui me semble intéressant à souligner dans cette liberté auquel je crois, c'est le fait que cet auditoire s'est particulièrement développé sur un segment qui peut-être surprendre beaucoup. 50% sont des non-chrétiens. Je pense que quand on dit ces personnes qui sont dans cette catégorie de chrétiens non pratiquants, autre religion, sans religion, sont pour beaucoup des chercheurs de sens. On est quand même dans une société qui manque de repères, et le fait de ce manque de repères, eh bien, on voit que on cherche, on attend une réponse sur tel ou tel sujet.
Tout le monde est beau, la vie est belle. Le Truman Show sur toutes les chaînes. Je lèche des crapauds pour me déterre. Plus on m'aime, plus je me déteste. Y'a le paradis sur la marelle. L'enfer est sous mes TN. Martin Luther avait un rêve. Vaut mieux pas qu'il se réveille. Putain d'époque. J'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque. J'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. Coupe mes réseaux, j'ai plus aucun pote. Sur vos tombes, j'irai cracher, danser en claquette. Le prêtre achète sa coke avec l'argent de la...
Ainsi, les radios associatives locales, nos anciennes radios libres, ont trouvé toute leur place dans le paysage radiophonique d'aujourd'hui et de demain. Elles ont pu s'adapter avec des moyens financiers certes limités, car elles ont su mobiliser d'autres ressources, celles de leur passion, celles de leur communauté d'auditeurs, celles enfin des valeurs qu'elles portent.
À ce titre, elles sont une formidable expression de la liberté dans sa diversité et sous toutes ses formes. La liberté est un bien trop précieux pour que le régulateur n'y soit pas particulièrement attentif. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Je le rappelle toujours, la loi que nous mettons en œuvre est fondamentalement une loi de liberté. Elle est intitulée « Loi relative à la liberté de communication » et le premier principe qu'elle pose dès son article 1, c'est la liberté de communication, la liberté éditoriale, la liberté d'expression. C'est la première mission qui nous incombe. La loi de 86 est aux médias audiovisuels ce que la loi de 1881 a été à la liberté de la presse face au développement très spectaculaire des réseaux sociaux et aux excès de ces réseaux sociaux. Le phénomène des infox, le phénomène de la haine en ligne, le phénomène des contenus illicites de façon générale qui sont véhiculés sur ces réseaux. Les opinions publiques mondiales ont considérablement évolué et aujourd'hui en appel à une régulation de ces grands acteurs systémiques. Donc je dirais qu'on est dans une phase de rééquilibrage des obligations entre les acteurs. C'est un mouvement qui n'est pas achevé, mais qui est engagé. C'est un mouvement qu'il faudra également engager en matière musicale, parce que c'est vrai, si on prend la situation des radios musicales aujourd'hui qui sont soumises à des obligations fortes, je pense aux règles relatives aux quotas de chansons françaises, et qu'on regarde en face la situation des plateformes de streaming musical qui ne sont soumises à aucune contrainte, on voit bien qu'on crée une situation de déséquilibre. Donc il faut tendre à ce rééquilibrage entre les acteurs, et c'est ce que la législation fait. Ce sera l'émission de l'ARCOM, cette nouvelle institution qui va voir le jour cette année, par la fusion entre le CSA et l'ADOPI. C'est un régulateur qui va s'adapter à ce nouveau monde numérique, et progressivement, la réglementation qu'on va mettre en œuvre va permettre de rééquilibrer les choses tout en étant attentif aux principes que nous mettons en œuvre et notamment le principe de liberté qui est au cœur de nos missions.
Sur toutes les ondes, sur toutes les antennes, j'écris ton nom, liberté. Liberté de chanter, liberté de parler, liberté de débattre. Ce sont tous ces modes d'expression dont nous parlerons dans le prochain épisode de Radio. Raconte-moi ton histoire.
C'était Radio Raconte-moi ton histoire, une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Cet épisode a été préparé par Anne Guérin et Françoise Monti, avec la complicité technique de Victor Michet et Karl Sauma, à la réalisation Marc Rigaud et la contribution de nos radios locales sans lesquelles rien n'aurait été possible.